Santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé. Bon midi, bon mercredi 14 décembre, mine de rien, 11 jours avant Noël. Peut-être essoufflé par le temps des fêtes qui s'en vient, en fait, les courses. On sous-estime parfois un petit peu cette période-là de l'année qui est souvent une source de stress pour plusieurs d'entre nous. Bien, profitez des 60 prochaines minutes, c'est un moment pour vous. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant, Marianne Paquette, derrière le micro. Aujourd'hui à l'émission, la chroniqueuse France Cardinal Rémette, elle, infirmière et auteure, nous parle cette semaine de grossesse à l'adolescence, dont le taux a diminué dans les dernières années ici au Canada. Elle propose un guide d'intervention pour faire des choix plus éclairés, bien sûr pour les jeunes filles concernées, mais également pour leur famille et les partenaires, donc vraiment tout l'entourage. Également, toujours en deuxième partie, Simon Brouillard, lui, chef de service à l'unité de réadaptation du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, parle d'un premier circuit d'appareils de conditionnement physique inclusif du côté de Victoriaville. C'est une initiative qui s'est d'ailleurs vue remettre le prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec à la mi-novembre. Aussi, Karine Lavoie vient nous visiter en studio. Elle nous présente le projet Hors-Piste qui permet aux jeunes issus de milieux un petit peu plus difficiles, des jeunes qui vivent dans la rue, d'expérimenter les arts du cirque et aussi des mesures spéciales pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance cet hiver à Montréal. Avec Julie Grenier, elle travaille du côté du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Mais juste avant, je vous présente mon nouveau recherchiste, Martin Forgue, à travers la revue de presse de la semaine. Martin Forgue, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là. Nouveau poste. C'est ta chaise qui fait ce
oui.
bruit tout à fait élégant.
Et insolite.
on commence cette revue de presse avec peut-être aussi un cas insolite, retour d'une maladie qu'on pensait éradiquer, peut-être la coqueluche,
oui.
Des cas en recrudescence en Montérégie avec un élève qui pourrait être infecté dans une polyvalente.
Oui, bien, c'est ça, un élève de la polyvalente de Mortagne à Boucherville qui pourrait avoir contracté la coqueluche. Bon, c'est la polyvalente, évidemment, la direction qui a lancé l'avertissement, qui en a profité aussi pour réitérer l'importance de surveiller l'apparition des symptômes là, chez, évidemment, les camarades de classe de ce jeune élève. Les symptômes, évidemment, on parle de toux, d'une toux qui peut se révéler très persistante, qui peut évidemment conduire à des vomissements. Et si jamais on constate ça, eh bien, il faut se diriger vers les services médicaux. Mais ce qui est important là-dedans, parce que, bon, rapidement, ça peut sembler un peu anodin, bon, un seul cas, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en Montérégie, donc la région où se trouve la ville de Boucherville, le nombre de cas de coqueluche a triplé, a presque triplé depuis l'an dernier. Donc, on parlait de 54 cas en 2015 et de 153 cas jusqu'à maintenant, en fait, en fin d'année 2016.
C'est parce que c'est hyper contagieux, ce qu'on ne sait pas.
C'est ça, c'est extrêmement contagieux, ça se transmet par gouttelettes, donc évidemment, dès qu'on tousse, dès qu'on parle, les petits postillons, évidemment, qui peuvent se révéler, qui, s'ils sont infectés, peuvent transmettre très facilement cette maladie qui reste quand même assez désagréable. Et ça nous permet aussi de réitérer l'importance de la vaccination. On nous rappelle que le taux de protection du vaccin est de 85 % et aussi l'importance non seulement de se faire vacciner, mais aussi le rappel qu'on recommande vers l'âge de 14 à 16 ans.
Justement, et ça touche un élève de cet âge-là. Là, on peut imaginer une polyvalente.
L'école secondaire, donc, oui, voilà.
Voilà. On poursuit avec une autre bonne nouvelle, un bilan positif du côté de l'INSPQ. D'ici 20 ans, la société québécoise pourrait être l'une des plus vieilles en Occident.
Oui.
Et puis, en plus, en bonne santé, d'après la lecture que j'en ai faite.
Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. On aime se plaire à dire que, bon, 40 ans est le nouveau 20 ans, 50 le nouveau 30, 60 le nouveau 40. Mais on aime se le dire, mais c'est important. C'est toujours satisfaisant quand c'est quantifié. Et l'Institut national de santé publique qui a sorti une étude. Bon, je vais y aller en rafale avec quelques chiffres. Donc, en 2011, on parlait d'une personne sur 6 au Québec qui était âgée de 65 ans et plus. On prévoit qu'en 2031, ce sera une personne sur 4. Donc, c'est une progression quand même assez fulgurante. Et aussi, bon, en 2011, même chose, on parlait de la proportion d'aînés âgés de 85 ans et plus était de 12 %. Pour 2061, on prévoit que ce sera le quart. Donc, encore une fois, effectivement, là, la population du Québec qui vieillit. Il y a le Japon et la Corée du Sud qui sont parmi les sociétés où on compte le plus de gens âgés. Et le Québec les rejoint de plus en plus dans le monde. Donc, notre petite province qui se démarque sur la planète cette fois en ce qui concerne le nombre d'aînés. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est le bilan de santé de nos aînés. Donc, et l'INSPQ est allé d'un sondage, a sondé la perception positive de sa santé, la satisfaction à l'égard de la vie sociale également, qui est un facteur de santé, on le sait. Et donc, 81 % des répondants âgés de 65 ans et plus avaient une perception très positive de leur santé. 58 % d'entre eux étaient satisfaits par rapport à leur vie sociale. Donc, tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles au travers de, des fois, dans l'actualité, on entend parler de la solitude des gens âgés. Donc, c'est le genre de données qui nous...
Qui
nous font sourire un peu, qui nous rassurent.
Une fierté, voilà. Parce que pendant des années, lorsqu'on parlait de vieillissement en santé, on tournait les yeux vers le Japon, justement. Oui. Ben, d'ici 20 ans, on pourra justement nous-mêmes un petit peu se péter les bretelles.
On pourra se vanter.
Ben voilà. Maintenant, je poursuis, Martin, avec notre troisième nouvelle. Peut-être un peu moins reluisant, parce que si Montréal était un patient, il serait dans un état, disons, lamentable, et Saskatoon, vraiment très en forme.
Ben, tu dis lamentable pour Montréal, parce que ce dont on parle ici, c'est du top 10 du Conference Board, le rapport sur la santé qu'ils viennent de publier, qui nous parle un peu justement de la santé générale, la santé physique, socio-économique des habitants des 10 grands centres urbains du Canada. Et donc, tu le mentionnais, Saskatoon est la première du palmarès. Montréal, quant à elle, est la dernière. Le Conference Board, pour arriver à ces résultats, compte 24 indicateurs regroupés en 4 catégories: la satisfaction de vie, la santé de la population, le mode de vie et l'accès à des services de santé. Et donc, la ville de Montréal est malheureusement dernière au palmarès, comme je le disais. Par contre, la ville de Québec est quatrième. Donc, on est un peu mieux à Québec sur ce plan. Par contre, le Conference Board mentionne qu'il y a quand même quelques nuances à apporter, parce qu'on parle de Saskatoon, mais Saskatoon, c'est quand même un centre urbain de beaucoup plus petite taille qu'une ville comme Montréal, comme Toronto. Comme Vancouver, qui sont quant à elles toutes dans les 5 dernières positions.
Mais c'est ça, Toronto 9e. Oui. Évidemment, je regarde le palmarès, je me dis, est-ce que les plus grandes villes du Canada sont plus défavorisées ou partent déjà derrière? L'accessibilité aux soins.
C'est là qu'il faut apporter la nuance. C'est l'accès aux soins, cet indicateur. Parce que, des fois, dans les grands centres urbains, il n'y a pas le même nombre de spécialistes pour 100 000 habitants, par exemple. Donc, c'est à considérer quand même.
Oui. Merci beaucoup, Martin Fogg. Ça a été une conversation fort intéressante.
C'est une bonne première.
Bonne première.
C'est des retrouvailles pour nous, de toute façon.
Il y en aura d'autres, bien sûr, qui suivront. Martin Fogg, recherchiste de cette émission. Merci. Julie Grenier, bonjour.
Oui, bonjour.
Directrice adjointe au partenariat et soutien à l'offre de services et responsable dossier à l'itinérance, CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Julie, vous avez entendu la conversation avec Martin Fogg. Donc, Montréal, 10e dans le palmarès santé des villes, des grandes villes du Canada. Le portrait de l'itinérance, là, ça a un poids, bien sûr, dans ce portrait un petit peu plus lamentable de la santé ici des Montréalais.
Oui, tout à fait. Je crois que l'objectif aujourd'hui était de parler là, des ressources qui sont mises en place, notamment là, durant l'hiver, pour s'assurer là, que nos personnes itinérantes ne soient dans le moindre des cas possibles contraints à passer la nuit dehors. Donc,
tout à fait. Alors, on était là pour parler de ce plan 2016-2017 pour mettre en place des mesures spéciales afin de venir en aide aux personnes vivant en situation d'itinérance. Un plan, vous n'en êtes pas à la première, là, du côté du CIUS, là, ça a été mis en place dans les années antérieures.
En fait, depuis l'hiver 2000-2003, il existe là, une concertation entre la Ville de Montréal, à l'époque c'était l'Agence de la santé, et les différents partenaires qui planifient donc les mesures hivernales pour la population itinérante. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'il y a une collaboration de tous pour s'assurer qu'il y a un éventail de services et de possibilités pour que durant la période hivernale que l'on calcule là, du 1er décembre au 1er avril, des mesures là, supplémentaires soient mises en place, des places supplémentaires dans les refuges, des places supplémentaires dans les au centre de répit dégrisement, la disponibilité de halte chaleur et surtout aussi une navette qui permet d'aller chercher les gens et de s'assurer en fait que les gens ne passent pas la nuit dehors. Évidemment, l'itinérance, ça a plusieurs facettes, ça a des visages qui sont divers et il faut s'assurer donc aussi d'avoir des moyens qui permettent là, d'aller chercher le plus grand nombre de personnes possible qui n'ont pas tous les mêmes attentes ou du moins la même façon là, de répondre aux besoins. Ouais.
Ces mesures ont été mises en place pour répondre à la demande. La demande, elle ressemble à quoi en ce qui a trait à la demande de lits, là, par exemple? Vous pouvez comparer avec les années antérieures.
Bien, si je vous parle des chiffres de l'année dernière, dans les refuges pour hommes, il y avait l'hiver dernier là, 734 places d'hébergement qu'on appelle des places d'hébergement d'urgence qui étaient destinées aux hommes en situation d'itinérance. Il y en avait 734 durant l'hiver dernier et entre le 15 décembre et le 31 mars, on a compté 72 980 nuitées.
Oui.
OK. Évidemment, ça, c'est pour les refuges pour hommes. Les refuges pour femmes, on parle de 99 places l'hiver dernier et 7788 nuitées. Et si on regarde les haltes de chaleur, qui ne sont pas des refuges, mais vraiment un endroit là où aller passer un moment pour ceux qui ne souhaitent pas nécessairement passer la nuit dans un refuge, parce qu'évidemment, là, il y a un horaire, il y a différentes contraintes, on parle de 798 visites. Ça, ce sont les chiffres de la dernière année. Donc, évidemment, basé là-dessus, les mesures se mettent en place pour l'année en cours. Je ne sais pas si vous souhaitez que je vous fasse un petit peu un portrait là, de ce qui est disponible cette année. C'est près de 900 places d'hébergement d'urgence qui sont disponibles pour la période hivernale. Donc, 722 chez les hommes. On parle de la Maison du Père, de la Mission Bon Accueil, de la Mission Old Brewery, de Projet Autochtone du Québec, de Cap-Saint-Barnabé. Donc, c'est vraiment aux places régulières qu'on a durant l'année, s'ajoutent des places pour la période hivernale. Là, c'est chez les hommes. Chez les femmes, ce sont 102 places. Peut-être que vous voulez savoir qui sont les partenaires là, impliqués. Donc, on a le pavillon Patricia McKenzie, le Chaînon, la Rue des Femmes, Projet Autochtone du Québec, encore une fois, l'Abri d'espoir de l'Armée du Salut, la Maison Marguerite de Montréal et Passage. Donc, tous ces partenaires-là, évidemment, ben, le fait d'avoir une concertation prévue entre nous et eux permet aussi des ajustements parce que la Ville de Montréal fait une veille quotidienne aussi de l'occupation, ce qui permet aussi d'ajuster là, aux besoins. Évidemment, je vous ai parlé des hommes et des femmes. Il y a aussi les jeunes. Oui. Donc, il y a 64 places d'hébergement d'urgence là, qui sont accessibles aux jeunes grâce au Refuge des jeunes de Montréal et au bunker de l'organisme dans la rue, ainsi qu'à En Marge 12-17.
Oui. Ça demande, on vous écoute, Julie Grenier, une grande mobilisation des différents organismes pendant la période hivernale, la Ville de Montréal, le CIUS aussi. Est-ce que ça demandait des concertations afin de viser les besoins, les ressources disponibles et les besoins de cette clientèle?
Tout à fait. Bien, je vous dirais, la concertation, elle existe à l'année, puisque l'itinérance, c'est regardé en vertu d'un grand plan là, qui est intersectoriel. Donc, le CIUS a cette responsabilité-là sur Montréal, mais elle exerce cette responsabilité-là en concertation avec plusieurs partenaires, dont évidemment la ville, parce qu'on est à Montréal, c'est une ville qui a sa complexité et ses défis. Donc, on travaille étroitement à l'année sur plusieurs fronts, là, au niveau de l'itinérance, plusieurs chantiers de travail. Celui des services d'hébergement d'urgence en est un exemple là, très, très, très concret qui est mis en œuvre là, à chaque hiver.
Tout à l'heure, Julie Grenier, vous parliez de ces navettes afin d'aller rejoindre les personnes itinérantes dans leur milieu. Est-ce que ça, c'est un enjeu de leur parler de vos services, de les convaincre de vous suivre dans les refuges, pour un endroit chaud et sécuritaire? Comment l'approche se fait?
Mais c'est sûr que ce sont des intervenants, ce sont des personnes qui sont spécialisées auprès d'eux. La navette, elle est opérée par la mission Old Brewery et elle circule là, entre 14h30 l'après-midi et 3h du matin dans le centre-ville. Donc, ça permet là d'avoir un meilleur accès aux ressources pour les personnes itinérantes, dépendamment où elles se trouvent, pour être loin là, d'un refuge. Et ça permet aussi, grâce à la navette, là, d'avoir un peu un état des lieux aussi, ou savoir où il y a de l'espace disponible. Il faut savoir aussi que la navette accueille les personnes là, qui se regroupent au métro Bonaventure à l'heure de la fermeture du métro. Donc, ça donne une possibilité aussi là, de s'assurer là, d'acheminer les gens là, qui ne seraient pas encore rentrés là, vers des endroits.
Oui. Maintenant, j'aimerais, avant que l'on se quitte, Julie Grenier, pouvoir parler des haltes chaleur, qui sont des lieux, si je comprends bien, qui ne sont pas bon pour nécessairement passer une nuit, mais pour se réchauffer le temps d'un moment.
Oui. Bien, c'est comme je vous disais au début, l'important, hein, il n'y a pas de réponse unique en situation d'itinérance, comme dans bien d'autres cas d'ailleurs, et c'est important d'avoir une série de mesures pour permettre de répondre et rejoindre un plus grand nombre de personnes possible. Donc, les haltes chaleur, c'en est un autre exemple. C'est un endroit, dans le fond, c'est le centre de jour de la mission Saint-Michel qui est dans l'arrondissement Ville-Marie, qui ouvre ses portes lors des nuits là, particulièrement froides, afin de s'assurer que ceux qui ne rejoignent pas les refuges parce qu'ils ne souhaitent pas là, y aller, puissent à tout le moins aller se réchauffer et éviter là, d'aggraver leur état de santé ou de subir des engelures importantes, notamment. Mmh. Et il faut dire aussi là, qu'il y a à cet endroit-là, bien, il y a quelques animaux aussi qui peuvent accéder là, parce qu'il y a des cages pour les animaux. Donc, ça vient ouvrir des possibilités supplémentaires là, pour les personnes qu'on ne rejoindrait pas autrement.
Jeudi et vendredi s'annoncent des nuits froides, Julie Grenier. Donc, moment idéal pour ouvrir ces haltes chaleur et le service sera vraiment à point nommé là, en ces périodes très froides.
Effectivement, et c'est sûr que la veille est importante en ces périodes-là et on s'y prépare de façon à s'assurer là, de rejoindre le plus grand nombre de personnes et de s'assurer aussi là, d'ajuster là, aux besoins le nombre de places. Mm-hmm.
En terminant, si l'on croise une personne itinérante dans notre quartier en se rendant au travail à la maison, est-ce qu'on peut le référer à ces organismes-là pour qu'ils puissent bénéficier des lits ou des haltes chaleur?
Tout à fait, et je vous invite d'ailleurs à consulter là, la page Facebook du CIUSSS du Centre-Sud, car on les diffuse ces différentes mesures-là. On nomme aussi les organismes bien précisément, et d'ailleurs, eux autres même les partagent. Là. Donc, ce sont les principaux organismes. Je ne sais pas si vous voulez que je les nomme en rafale avant de terminer.
Quelques-uns?
La Maison du Père, Mission Bon Accueil, Old Brewery, Cap Saint-Barnabé pour les hommes, Pavillon Patricia McKenzie, la Rue des Femmes de Montréal, le Chaînon, l'Abri d'espoir de l'Armée du Salut, la Maison Marguerite de Montréal, donc pour les femmes.
Oui.
Et on s'est dit pour le projet autochtone du Québec également, pour les autochtones, pour les jeunes, dans la rue, le Bunker, Refuge des jeunes de Montréal, En Marche 12-17, et finalement la halte de chaleur, la mission Saint-Michel.
Julie Grenier, directrice adjointe au partenariat et soutien à l'offre de services, responsable dossier à l'itinérance au CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal. Évidemment, on partagera tout ça sur notre site web parce que c'est précieux comme ressource. Merci beaucoup.
Merci. Au plaisir.
Karine Lavoie, bonjour.
Bonjour.
Votre micro, là, vous pouvez le lever un tout petit peu. Oui, voilà. On va beaucoup mieux vous entendre de cette façon. Karine Lavoie, vous êtes directrice de l'OBNL Cirque Hors-Piste. Vous savez, moi, j'ai entendu parler de votre initiative par le documentaire L'art fait du bien, qui est encore disponible sur le site de Télé-Québec. Je pense que c'était le deuxième volet de cette série documentaire où on voit des jeunes issus de milieux plus difficiles, en situation de vulnérabilité, pratiquer les arts du cirque et s'épanouir à travers la pratique de cet art de scène. Comment est née l'initiative de Cirque Hors-Piste?
Au fait, l'initiative est née en 1995, puis au fait, ça a été initié par le Cirque du Soleil. C'était le volet action sociale par leur programme qui s'appelle Cirque du Monde, qui ont initié l'approche qu'on appelle de cirque social, dont on pourra parler un peu plus tard. Et ils se sont associés avec des organismes communautaires locaux qui, eux, avaient l'expertise dans le travail avec les jeunes en difficulté. Donc, ils associaient l'expertise cirque avec l'expertise de ces organisations-là. Puis ensemble, ils ont développé le projet en 1995. L'approche a été développée au fil du temps. En 2015, on a fêté nos 20 ans d'expérience auprès des jeunes. Et puis en 2011, on a décidé de développer un organisme en soi, donc de s'enregistrer comme OBNL sous le nom de Cirque Hors Piste. Puis on est fiers de dire qu'on est le premier organisme en cirque social au Canada. Donc depuis 2011, on est complètement autonome, même si le Cirque du Soleil reste un partenaire dans notre développement.
Karine, c'est quoi le profil des jeunes qui viennent chez vous?
C'est un profil quand même assez varié. On dit, tu sais, c'est jeunes, 15 à 30 ans, principalement de différents arrondissements de Montréalais, des jeunes qu'on dit en situation précaire, mais ça peut être, la précarité peut venir de différentes réalités. Ça peut être une précarité économique, résidentielle, des jeunes avec des milieux familiales plus difficiles, des jeunes qui proviennent des centres jeunesse aussi. On fait la promotion de nos activités dans les organismes qui travaillent en hébergement ou en service direct. Donc, notre bassin de jeunes provient de ces organisations-là. Mais nous, quand ils arrivent à nous, on essaie de ne pas regarder les jeunes par leurs problèmes ou leurs étiquettes, mais vraiment se dire, OK, c'est quoi leur potentiel, leur force, comment on peut les outiller pour qu'ils développent et qu'ils trouvent leur propre parcours de vie.
Mais ce sont des jeunes qui, j'imagine, n'ont jamais fait de cirque de leur vie avant.
Tout à fait. Donc, vraiment, la plupart des jeunes, c'est vraiment pour eux la première fois qu'ils se trempent dans le monde du cirque, qu'ils essaient. Puis c'est un peu ça aussi, hein, les arts du cirque. Il y a le côté défi.
Ouais.
Il y a le côté aussi marginal qui attire les jeunes. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un art inclusif. Fait que, tu sais, c'est diversifié, c'est un peu touche-à-tout. Puis je pense aussi que c'est un art qui vient où est-ce que tu peux atteindre des petites réussites rapides en progression, où est-ce que tu t'entraides, où est-ce que tu travailles les uns avec les autres. La notion de groupe est très importante
rassembleur.
Oui, tout à fait.
Et bien sûr, ça engendre assez rapidement l'estime de soi parce qu'il y a ce regard-là des autres aussi. Moi, si je vois quelqu'un jongler avec plusieurs balles, c'est sûr que tout de suite, j'ai un élan d'admiration pour la personne qui le fait. Est-ce que parfois, et je trouve ça assez intéressant, Karine, lorsque vous dites, on regarde pas les jeunes par leurs problèmes, par leur étiquette, mais je pense à des jeunes qui arriveraient avec des problèmes de toxicomanie, par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir un refus ou de dire, je te réfère vers telle autre ressource, revient quand tu seras en meilleure santé?
Bien, en fait, notre particularité, c'est que dans l'approche qu'on a développée, c'est qu'on travaille toujours en tandem. Donc, notre équipe de travail qui sont sur le terrain sont un mélange d'intervenants sociaux, donc qui proviennent du domaine du travail social avec des instructeurs de cirque qui, eux, ont l'expertise cirque. Ils travaillent ensemble. Donc, on a toujours des intervenants qui peuvent faire des interventions, que ce soit au niveau de la crise jusqu'à l'accompagnement vers des démarches, parce qu'on croit que par le potentiel des arts du cirque, mais les jeunes développent une volonté, des fois, de faire certaines démarches, de stabiliser certaines parties de leur vie, et ainsi de suite. On essaie de ne pas dire non, on accueille, mais on adapte. C'est sûr que quelqu'un, comme vous mentionniez, s'il arrive complètement intoxiqué, on va voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, en question de sécurité aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi aujourd'hui? Peut-être ça va être d'observer, de rencontrer, une première rencontre, mais souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est justement le cirque ou l'attrait du cirque peut devenir un outil pour gérer la consommation.
Bien sûr. Parce que là,
la personne qui ne peut pas faire du trapèze cette journée-là va dire, hey, moi, j'ai le goût d'en faire la prochaine fois. Donc, comment je vais faire en sorte... Nous, on ne va pas nécessairement on est en réduction des méfaits, donc on ne va pas nécessairement dire non, il ne faut pas que tu consommes du tout. Mais comment peut-être tu peux gérer pour que quand tu arrives à l'atelier,
tu es apte à le faire.
Puis que tu puisses t'amuser puis participer avec les autres.
Les jeunes arrivent chez vous, Karine, de quelle façon? Ils ont été référés par travailleur social, un ami?
Principalement par, on est vraiment connecté avec plusieurs organismes communautaires. Okay. Donc, c'est là qu'on fait beaucoup la promotion. C'est sûr que les intervenants sociaux qui travaillent avec nous travaillent aussi dans d'autres contextes. Donc, souvent, ils connaissent le milieu, puis c'est très précieux pour
nous. Et les besoins des jeunes aussi.
Et les besoins des jeunes. Donc, on adapte chaque projet qu'on fait, on l'adapte en fonction du groupe qui est là. Puis là, on a différents types d'activités. On a des activités plus d'initiation, où est-ce que les jeunes viennent vers nous. C'est ouvert, donc pas besoin de s'inscrire. C'est vraiment adapté au fait que les jeunes sont dans une instabilité dans leur vie. Fait que là, ils peuvent arriver n'importe quand, puis on va les accueillir comme ils sont. On va aussi dans les parcs, dans les organismes, donc pour aller vers les jeunes. Mais on a aussi des volets un peu plus structurants, c'est-à-dire qu'on utilise entre autres les arts du cirque comme outil de pré-employabilité, où est-ce que là, on va prendre un groupe précis de 10 jeunes.
Pour les préparer à ça, spécifiquement.
Exactement. Ouais. Okay. Donc, pour vraiment se dire, OK, comment avec les arts du cirque, on peut développer des compétences reliées à l'emploi, des compétences essentielles transférables à d'autres
emplois. Bien sûr, arriver à l'heure, les notions de sécurité, de communication, de respect.
L'engagement, oui, tout à fait, exactement. Ben oui. Puis ils font un processus d'entrevue, fait qu'on les met vraiment dans un contexte assez réel. Puis, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ça fonctionne très bien. On a vraiment un taux d'engagement très élevé.
Il reste combien de temps chez vous, les jeunes?
C'est variable. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand le parcours d'un jeune au sein de notre organisme, c'est à peu près 2 ans dans nos différents volets. Des fois, c'est un peu plus long, un peu plus court. C'est pas très fixe parce qu'encore une fois, on essaie de s'adapter justement aux besoins de chaque jeune. Pour certains jeunes, c'est assez court. Des fois, les jeunes vont développer un intérêt pour le cirque. Même si c'est pas notre objectif premier, ça arrive.
Ben oui.
On va les accompagner et les référer vers ces démarches-là. Mais 2 ans, là, je dirais que c'est à peu près la moyenne. Puis certains restent plus longtemps. On a développé des postes d'aide instructeur où est-ce que les jeunes peuvent être engagés pour appuyer notre équipe puis pour poursuivre aussi leur développement. Donc, ça peut être une alternative aussi.
Est-ce que la notion de spectacle chez Cirque Hors-Piste, c'est-à-dire ce que les jeunes sont amenés à être en représentation devant un public à un moment donné?
Oui, c'est ça. C'est sûr que dans notre volet de création collective, justement, de pré-employabilité, à la fin, le projet final, c'est de créer un spectacle et de le présenter dans la communauté. Mm-hmm. On a l'impression que c'est justement un outil vraiment fort et pour le jeune qui est au niveau de la valorisation et pour le public au niveau du changement de la perception et l'échange que ça crée. Donc oui, le spectacle fait vraiment partie de notre approche. Puis aussi, on développe de plus en plus qu'est-ce qu'on appelle nos services créatifs. Donc, on vend des animations, des activités team building corporatives, des ateliers de cirque, où est-ce qu'on va engager autant des jeunes que des professionnels pour...
Mais j'imagine aussi que le spectacle, la représentation, ça emmène le jeune à renouer avec un réseau parfois où il s'est retiré, avec les parents, les voisins, la famille, les ex-collègues, de dire « Venez me voir, je suis rendue là ». Vous n'avez pas de site encore, Karine Lavoie, vous êtes sur Facebook et il y a un site.
Mais en fait, on complète notre site Internet, donc c'est www.circorpis.com.
Parfait. Et on peut aller également sur téléquébec.tv dans la zone vidéo. On peut aller revoir cet excellent documentaire où on peut voir vos ateliers. Ça a été vraiment un plaisir d'en entendre parler davantage sur Cirque Hors-Piste. Merci, Karine Lavoie.
Merci, Marianne.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé, toujours Marianne Paquette, avec vous en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, qui m'accompagne également. Je ne suis pas seule à faire cette émission. Tout à l'heure, je vous rappelle que France Cardinal Remette, notre chroniqueuse, est avec nous en studio. Elle nous parle de grossesse à l'adolescence, état de fait, prise de décision, intervention et accompagnement. Tout ça dans un guide d'intervention qu'elle a elle-même créé et c'est dans un bouquin publié chez Multimonde. Tout ça, mais juste avant... Nous allons du côté de Victoriaville pour discuter avec Simon Brouillard. Bonjour, Simon Brouillard.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes chef de service à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Et on est là pour parler d'une très, très belle initiative. Simon, est tellement une belle initiative que ça a été récompensé par un prix, le prix à part entière 2016, qui est remis par l'Office des personnes handicapées du Québec une fois aux deux ans. Une belle fierté pour vous, la remise de ce prix-là, j'imagine.
Ben oui, c'est sûr. C'est la reconnaissance d'un projet local, mais qui nous permet d'avoir une vue au niveau régional dans ce cas-ci, là, et même au niveau provincial.
Bien
aussi.
Sûr. Ce projet-là, c'est la mise sur pied d'un circuit d'appareils de conditionnement physique inclusif. Inclusif, c'est-à-dire, Simon, qu'il s'adresse à des personnes qui vivent en situation de handicap?
Inclusif dans le sens que les appareils, dans le cadre d'un partenariat, les appareils sont possédé par le CIUS, le Centre intégré de santé. Mm-hmm. Et on a un partenariat avec un gym privé. Les appareils sont déposés et, si on veut, éparpillés au travers de l'ensemble des autres appareils.
Oui.
Ils permettent l'accès de façon adaptée à des personnes à mobilité réduite. Mais monsieur, madame, tout le monde peut utiliser aussi les appareils. Donc, dans une population générale.
Ouais.
Fait que le volet inclusif est d'autant plus frais dans ce sens-là.
Avez-vous l'impression que c'est une force que ces appareils adaptés se retrouvent au sein même d'un gym qui s'adresse au grand public? Donc, personnes en situation de handicap peuvent côtoyer des gens qui s'entraînent là, tout bonnement issus du grand public.
C'est sûr que c'est avantageux parce que nous, dans le fond, si on avait les appareils chez nous en centre de réadaptation, ce serait seulement notre clientèle et ceux qui reçoivent les services, par exemple, du kinésiologue qui aurait, ou du physiothérapeute qui aurait accès aux appareils sur des heures bien spécifiques et sur rendez-vous. Là, c'est comme si on venait à rendre l'accès sur une base continue avec les heures d'ouverture du gym. Et nous, une fois que les gens, dans le fond, ils ont expérimenté les appareils, ben, même s'ils ont terminé leur réadaptation, ils peuvent continuer d'utiliser ces appareils-là. On multiplie l'utilisation des mêmes appareils.
Mm-hmm. Cette initiative, elle est née d'un partenariat, on en a parlé brièvement, donc de la ville de Victoriaville, du centre du gymnase Maxiforme et du CIUS. Ce partenariat, il est né comment? De quel genre de mobilisation?
Dans le fond, initialement, nous, on fait déjà du partenariat pratiquement au quotidien. Avec le gym Maxiforme, ça faisait plus d'une douzaine d'années qu'on avait une entente de service. On avait déjà un appareil qui était dans leurs locaux, mais sur la base d'une entente, on partait, notre éducateur physique partait avec des usagers, allait dans le gym lui-même faire des activités de réadaptation.
Mm-hmm.
Mais là, avec le nouveau projet, là, on vient de multiplier et de rendre les accès beaucoup plus élargis. Avec la ville de Victoriaville, on est habitué de faire des partenariats aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui touche l'accessibilité à des loisirs ou à des lieux publics, la ville de Victoriaville fait appel à nos services pour s'assurer des meilleures recommandations pour justement permettre les accès aux personnes, pour notre secteur à nous, c'est plus la déficience physique,
mm-hmm.
donc pour les personnes qui présentent des limitations. Donc nous, on fournit notre expertise dans ce sens-là. On a réalisé plusieurs projets jusqu'à présent, que ce soit une piscine adaptée, là, la piscine Édouard Dubard, ou un nouveau centre culturel, le Carré 150, ça a tout été... Les devis sont faits, mais en respectant les recommandations.
Oui.
Puis là, dans ce cas-ci, ben le propriétaire du gym, Maxiforme, lui, il avait un projet d'agrandissement. Excusez. Et c'est ça qui est devenu un petit peu là, l'élément clé de notre projet. C'est que là, on a vu qu'il y avait une opportunité de pouvoir acquérir un plus grand nombre d'appareils adaptés, beaucoup plus spécifiques pour notre clientèle à nous dans le secteur de la santé et de la réadaptation.
Mm-hmm.
Mais nous, on ne voulait pas limiter les accès à ces appareils-là. Donc, s'ils étaient sur place dans le gym. Puis le gym, lui, de son côté, avec la ville de Victoriaville, pouvait bénéficier de subventions pour améliorer l'accessibilité des locaux, des vestiaires et tout. Donc, c'est devenu un rêve qu'on a fait ensemble. Puis c'est devenu réalité parce qu'on a proposé ça à des partenaires, des fondations qui sont venus nous appuyer dans l'achat de 7 appareils adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Pour le mieux-être de vos citoyens, bien sûr, Simon Brouillard, la multiplication de ces services, ça répond à des besoins. Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer les besoins du côté de Victoriaville en matière de sport adapté, d'activité physique adaptée pour des personnes en situation de handicap chez vous?
C'est sûr que la Ville avait déjà fait une étude, puis on avait rapporté qu'il y avait un manque de ce côté-là en termes d'accessibilité à des sports adaptés ou à des activités physiques en salle de conditionnement. Mais il y a déjà un effort réel qui est fait dans la région pour permettre des accès. Là, c'est sûr qu'on vient, avec ce partenariat-là, rajouter une strate de plus là, en termes d'accessibilité.
Oui, tout à fait. Est-ce que des personnes, donc des résidents de Victoriaville qui vivent en situation de handicap peuvent bénéficier du circuit au sein du gym Maxiforme sans être un usager du CIUS?
Oui, okay. Totalement. Notre entente, étant donné que les appareils séjournent, sont hébergés par le gymnase, à ce moment-là, quelqu'un qui est membre au même titre que monsieur et madame Tout-le-Monde, dans le fond, s'inscrit. Il peut même profiter d'un essai sur place préalablement. Puis il y a des journées d'organiser avec la Ville aussi dans sa politique de loisirs. On appelle ça les journées Hop la Ville, où là, les portes sont ouvertes et les gens peuvent aller essayer des activités. Donc, le gym collabore à ces activités-là aussi. Ça fait que les gens vont sur place, ils essaient. Si c'est à leur goût, ils s'inscrivent et ils peuvent accéder aux appareils sans être inscrit au CIUS. Puis, la même chose pour nos usagers, c'est pendant la réadaptation, ils ont accès avec un service spécialisé là, de kinésiologue. Mm-hmm. Et par la suite, ils peuvent poursuivre en fonction de leur intérêt et de leur capacité.
Mm-hmm. Simon Brouillard, êtes-vous en mesure d'établir le profil de ces personnes qui utilisent le circuit adapté?
Ben, jusqu'à présent, dans le fond, il y a des gens qui étaient en fauteuil roulant manuel et en fauteuil roulant motorisé qui n'avaient pas accès à des appareils de conditionnement. Alors là, les 7 appareils adaptés ont permis justement à un certain nombre de personnes. J'ai pas le détail du nombre de personnes, mais lors de la remise du prix au Parlement à Québec, là, le prix à part entière, on avait deux utilisateurs qui étaient avec nous, une dame qui était en fauteuil motorisé, puis un homme qui était en fauteuil roulant manuel, qui nous ont accompagnés, parce que pour eux, ça change vraiment leur quotidien.
C'est évident.
Et ils nous ont partagé justement le volet qui se sentait vraiment intégré à part entière là, dans des activités de loisirs au quotidien, et que ça leur permettait d'être avec d'autres personnes autour d'eux, d'échanger. Et c'est comme si la situation de handicap, dans le fond, était éliminée.
Oui, parce que le milieu est adapté. Souvent, une personne handicapée l'est parce que son environnement n'est pas adapté à ses besoins. Vous avez, avec le gym Maxiforme et la ville de Victoriaville, pu rendre ce gym accessible. Bien sûr, il y a des retombées du point de vue de l'inclusion de ces personnes, mais point de vue santé, parce que la personne est plus active aussi.
Ça, c'est un phénomène, je dirais, nouveau depuis les dernières années. On a peut-être l'effet là, des Paralympiques qui est de plus en plus visible. Mais effectivement, même dans le monde de la réadaptation, on n'était pas autant à l'affût il y a plusieurs années de permettre ou de donner des activités de conditionnement physique à des gens qui vivaient avec un handicap physique. Parce qu'on se disait, ben, ils sont limités, donc faut adapter, puis ils s'organisent par la suite. Mais là, on voit vraiment un déploiement, puis une évolution, où là, on voit que les gens bénéficient grandement de l'activité physique. Et souvent, c'est de façon micro-graduée au début, parce que les gens, ça peut faire très longtemps qu'ils bougent peu.
Mm-hmm.
Et là, avant de dire qu'ils vont aller faire du sport adapté, Ils ont besoin d'une étape intermédiaire entre les deux.
Ouais.
Et c'est ce que le gym leur permet d'aller chercher, justement,
ouais,
en micro-graduant selon leur tolérance à eux. Et ils peuvent aller chercher des éléments de différence, soit pour leur quotidien ou pour l'accès à des loisirs adaptés qui sont de plus en plus multiples.
Mais c'est une façon de retrouver de la mobilité pour certains qui ne bougeaient plus ou bougeaient moins depuis un certain temps, de réduire la douleur chronique et de retrouver une certaine confiance en soi pour dire, ben maintenant, j'ai retrouvé une certaine forme et je peux continuer des activités sportives dans un groupe ou dans un niveau un petit peu plus avancé. Et tout ça se fait, Simon, dans un milieu sécuritaire aussi. Il y a des kinésiologues sur place et d'autres professionnels.
C'est ça, effectivement. C'est dans un milieu sécuritaire. Et en plus, il y a une espèce de convivialité qui s'installe. Même les gens qui sont tout autour, si la personne a un petit peu de difficulté, par exemple, à manipuler pour changer les charges ou des choses comme ça, il y a toujours quelqu'un qui tend la main. Parce que ça, le fait d'avoir de la présence sur place de gens qui ont des difficultés ou des limitations physiques, ça a un impact sur l'ensemble de la clientèle. Puis ça, le propriétaire en est très conscient de tout ça. L'ambiance dans le gym, la mentalité du gym, c'est pas juste des gros bras, comme on dit. C'est vraiment une ambiance très conviviale. On entend toujours les gens s'amuser dans ce gym-là.
Oui.
C'est bénéfique pour les gens. Quand on parle d'inclusion, là, c'est bénéfique à tous les niveaux.
Pour tout le monde. En terminant, Simon Brouillard, et rapidement, le prix à part entière, c'est pas rien. C'est une très belle distinction. C'est remis par la ministre Lucie Charlebois, un prix qui est remis une fois aux deux ans. Comment vous allez tenter, avec la ville de Victoriaville, avec le gym Maxiform, de maximiser les impacts de la réception de ce prix-là?
C'est sûr qu'il y a une espèce de publicité qui a été faite autour de ça avec des différents articles. Mais déjà, sur le jury, il y avait dans les membres le maire de la ville de Drummondville. Donc, nous, ça se passait à Victoriaville. Lui, quand il a vu ce projet-là, il était épaté là, de voir cet esprit de partenariat, mais tout le volet inclusif du projet. Et lui, déjà là, ce qu'il nous disait, ben, il dit, si on arrive avec un projet comme ça dans le secteur de Drummondville, c'est sûr qu'on va avoir une oreille attentive. Et en le ramenant à différents niveaux, c'est sûr que ça... Nous, ce qu'on recherche, c'est un effet de déploiement, de développement. On lance le défi, dans le fond, à d'autres. On leur dit, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est quand même un défi en soi d'attacher le partenariat de façon aussi serrée puis s'assurer qu'il y a une pérennité à ces projets-là. Oui. Mais c'est quand même quelque chose qui est possible.
Oui.
Donc, le défi est lancé aux différentes villes du Québec, aux différentes municipalités.
Bien, c'est entendu, Simon Brouillard. Nous aussi, on va lancer le défi à d'autres municipalités au Québec et on va les inciter ou les encourager à vous imiter, vous qui avez rendu Victoriaville une localité plus inclusive. Merci beaucoup, Simon Brouillard. À vous, à votre équipe. Je le rappelle, vous êtes chef de service à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, CIUS, de la Mauricie et du Centre du Québec. Oui, c'est long, mais ça méritait d'être dit. Merci, Simon Brouillard.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Cardinal Remède, bonjour.
Bonjour.
La dernière, mais non la moindre, le dessert de cette émission chroniqueuse, ici à cette émission infirmière et auteure. Et vous avez publié de ça quelques années un livre intitulé « Grossesse à l'adolescence, guide d'intervention pour un choix éclairé » publié chez Édition Multimonde. Qui nous permet peut-être, bien sûr, de comprendre d'une façon bien concrète, mais aussi d'observer en premier lieu que la situation au Canada, elle s'est améliorée en ce qui a trait à la prévention ou à la gestion des grossesses chez les adolescents.
Tout à fait, oui. Le taux actuel qui est émis par la Société canadienne de pédiatrie pour le Canada est de 24,1 pour 1000 adolescents. En fait, on parle des moins de 20 ans. Et on dit qu'elle a diminué de près de la moitié quand même là, depuis 1994. Au moment où j'ai écrit mon livre, on parle de 1999, au moment où il a été publié, la situation a évolué positivement en ce sens. Il y a moins de grossesses. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des... Pourquoi? Hein? Pourquoi
cette diminution?
Bien, évidemment, les services, hein, on parle toujours de l'accès aux services. Alors, les CLSC, maintenant, peuvent accueillir les adolescentes et lui offrir la contraception d'urgence. Qu'on appelle communément la pilule du lendemain. Ouais. Alors, ils n'ont plus à attendre à l'urgence pour recevoir. Les pharmaciens aussi peuvent l'offrir à l'adolescente ou au jeune adulte, bien sûr. Alors, l'accès est un grand élément. Il y a aussi beaucoup plus d'informations quand même. Il y a la gratuité des contraceptifs oraux pour les adolescentes et les jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Et aussi, comme je disais, l'accessibilité aux services des cliniques un peu partout qui permettent une meilleure prévention, une meilleure éducation auprès des jeunes.
Il n'y aurait pas aussi la notion de confidentialité. Je pense qu'à partir de 14 ans, une jeune fille n'est pas nécessairement obligée d'aviser ses parents qu'elle prend un contraceptif. Ça
Tout
peut jouer quand même aussi.
Ça peut jouer, mais cet élément-là était déjà présent depuis longtemps. C'était inclus dans la loi de la santé publique au moment où j'étais infirmière scolaire. Je me souviens, elles avaient ce recours-là, droit à la confidentialité, même pour une interruption volontaire de grossesse, si elles n'étaient pas hospitalisées. Si ça durait en dedans de 12 heures, là, le personnel devait garder la confidentialité pour ces jeunes-là, et c'est encore le cas, effectivement.
Tout ça est étonnant, France, parce que, bon, l'information circule davantage, mais en même temps, l'éducation à la sexualité, ça a disparu des écoles secondaires au Québec. Est-ce qu'on peut expliquer ça, c'est-à-dire moins d'éducation, mais en même temps réduction des grossesses à l'adolescence? Est-ce que Internet, ou peut-être que les parents discutent davantage avec leurs filles et leurs garçons aussi?
Probablement, mais je n'ai pas lu, je ne peux pas vous donner des données plus formelles à ce niveau-là. Évidemment, on fait partie d'une société qui est plus ouverte au plan de la sexualité.
Voilà.
Par contre, on dit qu'à l'inverse, on fait moins d'éducation, effectivement, ce qui est déplorable. Alors, je pense qu'il faut quand même le souligner.
Oui. Maintenant, pourquoi une adolescente tombe enceinte dans ce parcours très fragile et tumultueux de la vie?
Excellente question. D'abord, il faut comprendre qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. La croissance n'est pas terminée. On parle beaucoup de comportements à risque au niveau de l'adolescence. L'effet de la pensée magique, « ça ne m'arrivera pas à moi », bien, c'est toujours aussi présent. Il y a aussi, on dit, multiples raisons et multiples contextes, en fait. Les circonstances, une relation sexuelle non planifiée, spontanée, le désir de ne pas déplaire aussi à son partenaire, hein, et puis de lui proposer un condom, par exemple, quand il s'agit d'une relation qui n'était pas planifiée. La consommation d'alcool, quelquefois de drogue, peut faire qu'on est plus insouciant, on y pense moins, en tout cas, on ne veut pas y penser. Il y a aussi tout un autre aspect, l'aspect des carences affectives. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans des milieux qui sont peu stimulants, où ils reçoivent peu d'affection, ils n'ont pas de projet de vie comme tel, sont un peu désabusés de la vie, ça ne va pas bien à l'école. Alors, ces jeunes-là peuvent même aller jusqu'à désirer de devenir enceintes pour échapper à leur milieu et à leur vécu.
Ouais. J'imagine qu'il y a aussi le facteur d'être influencé. Ma copine, elle a une relation sexuelle sans condom avec son partenaire. Ben moi aussi, c'est comme ça. Puis je veux pas être dénigrée parce que je prends un contraceptif. À l'adolescence, le réseau, c'est très, très important, ce que pensent les autres de nous aussi. Là.
Oui, sûrement. Mais sûrement, la relation intime avec le partenaire, il joue pour beaucoup. Hein. Si le partenaire est ouvert au port du condom ou s'il ne l'est pas du tout, ça peut faire beaucoup la différence.
Donc, encore là, sensibilisation des filles, mais des garçons aussi. On oublie tellement souvent ça.
Oui, on devrait les responsabiliser davantage, effectivement.
Oui. Maintenant, en ce qui a trait au choix, c'est pas évident, la jeune fille est confrontée à ce choix-là, est-ce qu'il est possible de la guider, de l'encadrer?
Tout à fait. C'est important, tout d'abord, de l'accueillir, hein, d'être compréhensif, de ne pas la juger quand on apprend qu'une adolescente vient nous consulter ou même elle peut consulter un membre de sa famille et vouloir en parler. C'est important d'être ouvert. Et aussi d'augmenter sa compréhension de l'événement, ce qu'elle en comprend, ce qu'elle comprend des options qui s'offrent à elle également. Parce que souvent, c'est bien confus dans la tête. C'est sûr que l'annonce d'une grossesse, c'est un choc pour l'adolescente. Maman, il faut qu'elle l'absorbe, là, ce choc-là. Par contre, des intervenants chez Grossesse Secours à qui j'ai parlé, et puis j'ai lu aussi les textes qu'ils ont produits, ils nous disent, eux, que souvent, quand elle consulte, elle va poser la question, est-ce que ça fait mal à subir un avortement? C'est souvent une question pour entrer là, de jeu dans le sujet parce qu'elles sont enceintes. Et on dit que souvent, la décision est déjà prise. Alors, et que c'est très délicat de lui faire changer d'idée ou d'essayer de lui faire voir d'autres options. Mais il y a quand même un effort qui peut être fait, c'est certain, et puis voir comment elle entrevoit, comment elle perçoit cette situation-là, comment elle se projette dans le futur. Aussi, d'analyser comment sont ses liens avec ses parents, avec son partenaire, qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'elle subit des pressions de son entourage? Aussi, c'est très important. Parce que si, par exemple, des parents apprennent que leur fille est enceinte, qu'ils font une pression pour qu'elle interrompe la grossesse, c'est sûr que dans la prochaine année ou plus ou moins, là, elle peut redevenir enceinte.
Ah oui.
Alors, oui, ça, je l'ai lu, la littérature nous dit ça.
Parce que le choc de l'annonce de la grossesse, oui, pour la jeune fille d'une part, mais pour le parent aussi, qui est confronté dans ses croyances, dans sa façon d'avoir élevé son enfant, et peut-être aussi qu'il y a une espèce de culpabilité chez le parent de dire, bon, où j'ai manqué? Est-ce qu'il y a une information que j'ai pas véhiculée? J'imagine que ça pèse dans la balance aussi,
oui,
tout ça.
Oui, oui.
Il y a différentes options. On a parlé du choix, faire un choix éclairé. Il n'y a pas de bonne réponse nécessairement. Ça dépend tellement de contexte, de l'âge aussi de la jeune fille concernée et de son partenaire. Les options, on pense à l'interruption de grossesse,
tout à fait,
évidemment.
Tout à fait. Elle peut choisir de garder son enfant et de poursuivre sa grossesse. Elle peut aussi... et de garder l'enfant après à l'accouchement, mais elle peut aussi décider de le confier à l'adoption. C'est plus rare, mais c'est une option qui est possible. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai adopté un enfant du Québec. Alors, oui, c'est possible. Il avait 8 jours et c'est toujours la plus grande joie de notre vie. Alors, et d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé le choix d'écrire un livre, parce qu'en fait, ce livre-là, il a été écrit suite à un travail de maîtrise que j'ai fait en sciences infirmières. 10 ans après, j'ai écrit un livre et j'ai exploré beaucoup la question. Et la journée où j'avais terminé mon rapport de maîtrise, le lendemain, je recevais l'appel pour me dire qu'il y avait un enfant pour moi. Alors, j'ai vécu une situation assez intéressante. Et ce sujet-là me passionne toujours beaucoup. Maintenant, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est très important, surtout pour l'adolescente qui décide de poursuivre sa grossesse, c'est qu'il peut y avoir certains risques, certains niveaux de risque, puis ça dépend des milieux, bien sûr. Mais elle nécessite vraiment des soins attentifs, puis il faut qu'elle soit orientée vers des bonnes ressources pour l'aider, puis aussi l'encourager à poursuivre des études. Parce que si elle ne poursuit pas des études, elle risque de rester dans le cycle de la pauvreté.
Et pour poursuivre des études, elle a besoin de soutien de sa famille ou de ses proches, d'encouragement,
oui,
d'encadrement. Donc, ça revient, et on doit se laisser là-dessus, à l'accueil. Et ça, c'est... aussi votre message, France,
oui,
l'accueil du choix, l'accueil de cette jeune fille, de ce jeune homme également, parce qu'il est impliqué. En terminant, je trouve que c'est une question importante, qui doit être impliqué dans le choix, la jeune fille, le partenaire?
Les parents. Je pense qu'il faut créer un réseau de support pour cette adolescente-là. Alors, ça peut être des amis très proches, ça peut être le partenaire s'il collabore, parce qu'il y a des partenaires qui restent avec la jeune fille.
Oui. Il y en
a, puis on dit même qu'ils restent pendant la grossesse, certains vont quitter après, mais pendant la période cruciale, ils peuvent être là, ils doivent être impliqués. Et aussi, évidemment, c'est ça, les parents, puis aussi les professionnels de la santé qui peuvent l'aiguillonner à travers les services.
Et les ressources disponibles pour la jeune fille?
Bon, il y a Grossesse Secours dans la région de Montréal, il y a SOS Grossesse en Estrie et à Québec, dans la région de Québec. Le numéro de téléphone de Grossesse Secours à Montréal, 514-271-0554. Et eux offrent des services d'écoute téléphonique, informations, références, d'hébergement. Il y a une friperie et puis des rencontres, bien sûr, un suivi puis des ateliers pour les adolescentes. En fait.
Et bien sûr, votre livre qui est un guide d'intervention pour un choix éclairé, Grossesse à l'adolescence de France Cardinal Rémette aux éditions Multimonde. Merci beaucoup.
Merci.
Joyeuses fêtes.
Merci.
Dernier segment de cette émission, mon coup de cœur de la semaine, et je vous dirige vers une lecture qui est très accessible dans la Presse Plus, article de Jean Siag, publié ce samedi dernier, 10 décembre, et ça s'appelle « Bénévole d'occasion », un article fort bien écrit qui vous invite à bénévoler, à donner de votre temps pendant la période des fêtes. Bien sûr, les organismes, que ce soit Moisson Montréal, d'autres organismes, là, il parle beaucoup des petits frères, Jean Siag, dans son article, ont besoin de bénévoles à l'année. Mais pendant la période des fêtes, l'afflux de bénévoles est essentiel parce que les besoins sont plus grands. Mais pas juste les besoins qui sont plus grands, la solitude est plus grande également. Et moi, j'avais envie de vous parler rapidement des petits frères qui créent de grands moments pendant la période des fêtes pour des personnes aînées un petit peu plus isolées. Donc, la fête de Noël à domicile le 24 décembre qui est destinée aux aînés qui ne peuvent pas se déplacer. Le dîner de Noël le 25 décembre qui se passe du côté d'une quinzaine de villes du Québec. Donc, ça rejoint énormément de personnes âgées qui sont réunies dans la salle pour manger en compagnie de bénévoles. Et ce qui est d'intéressant, c'est ce que souligne Caroline Soriol, qui est la directrice générale des Petits Frères, c'est que souvent les bénévoles sont aussi des personnes isolées, des personnes seules. Donc, il y a un côté qui est gagnant. Gagnant, c'est-à-dire donner et recevoir. Donc, si vous avez un petit peu de temps pendant la période des fêtes, donnez de votre temps à un organisme près de chez vous. Marianne Paquette qui vous salue. C'est la fin de cette émission, c'est bon pour la santé. Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console. Martin Faure, Yann Lorgenson à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. Portez-vous bien. Je vous salue. À la semaine prochaine.